Les collectivités territoriales s'inquiètent des conséquences de l'augmentation de la dette publique sur leur gestion.
Alors que l'INSEE a réévalué le déficit public à 5,5% du PIB pour 2023 au lieu des 4,9% initialement prévus, les annonces du ministre de l'Économie en faveur de la réduction de la dette inquiètent les collectivités territoriales. Quelle part ces dernières devront-elles prendre aux économies envisagées ? Nous en parlons ce matin avec Thomas Fromentin. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes président de l'agglomération de Foix-Vary en Ariège et vous êtes aussi vice-président en charge des ressources humaines de l'association Intercommunalité de France qui rassemble donc 165 intercommunalités de notre région et ça représente 8264 élus d'Occitanie, me disiez-vous. Intercommunalité de France annonce que la situation financière des collectivités s'est globalement redressée après deux années 2020 et 2021 difficiles. Est-ce que cette situation financière favorable peut se prolonger dans la durée, Thomas Fromentin ?
Nous sommes inquiets globalement sur cette situation financière. Effectivement, en sortie de Covid, nous avons réussi à nous redresser. Cependant, il y a deux évidemment facteurs inquiétants. Un, l'inflation. De la même manière que les ménages ont de plus en plus de mal à finir les fins de mois et où le panier de course est de plus en plus élevé, eh bien pour nous, intercommunalité, c'est évidemment la même chose. C'est la même chose notamment sur les frais énergétiques qui ont bondi de manière considérable, surtout sur l'année 2023. Vous savez, sur mon intercommunalité, c'est une progression de 500 000 euros de frais d'énergie d'une manière générale qui est là et redescendu à 300 000 euros de plus, mais enfin ça reste 300 000 euros de plus. Et puis, inquiétude, puisqu'on est là pour en parler, autant le dire tout de suite, sur les annonces d'éventuelles baisses des concours de l'État qui nous inquiètent fortement.
Mmh. Alors c'est vrai qu'il y a quand même déjà eu des baisses, hein, nous allons en parler. Les dépenses des collectivités, des organismes divers d'administration locale représentent 18% de la dépense publique, alors que c'est 43% pour les dépenses des administrations de sécurité sociale et 39% pour l'État et les entités publiques qu'ils gèrent. Donc vous avez parlé de ces difficultés de l'inflation et puis aussi de je perds mes mots.
Des annonces de l'État.
Voilà, et des annonces. Il y a aussi eu cette crise Covid qui a quand même fragilisé toutes ces communes. Quels sont les autres paramètres qui fragilisent les finances des collectivités ?
Ce qui nous fragilise en ce moment, donc je le disais évidemment, l'inflation, c'est également... Mais bon, on pouvait parfaitement le comprendre, mais tout de même, les décisions d'État d'augmenter ce qu'on appelle le point d'indice. Vous savez, les fonctionnaires, ils sont rémunérés au regard de ce qu'on appelle un point d'indice, et plus ils augmentent, et plus leur salaire augmente. Évidemment, au regard de l'inflation, il était nécessaire de les augmenter.
C'est une bonne chose.
Franchement, sur le fond, c'est une bonne chose, et je l'ai défendu. Cependant, il nous a bien fallu trouver les marges financières pour pouvoir augmenter ses salaires, puisque l'État décide d'augmenter le point d'indice, mais ne nous compense pas cette augmentation du point d'indice. De plus, vous me permettrez d'avoir une interrogation. Il y a eu des décisions de suppression de la taxe d'habitation, en tous les cas sur les habitations principales, ainsi que la réduction de moitié de ce qu'on appelle la CVAE, qui est une contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. C'est le gouvernement qui a décidé cela. Ça nous a été compensé. Donc, quelque part, je ne devrais pas avoir de crédit. À la même hauteur. Mm-hmm. Cependant, ça fait un manque à gagner pour l'État d'environ 25 milliards d'euros tous les ans. C'est quand même la somme que le gouvernement cherche actuellement. Oui. Mm-hmm. Donc voilà, je ne fais que poser cette interrogation. Fallait-il supprimer des fiscalités au moment où on savait qu'à un moment, il faudrait bien rembourser la dette Covid, évidemment.
Oui, bien sûr. Alors, en 2024, Intercommunalité de France observe de nombreuses tensions sur les dépenses des communes, notamment sur les charges de personnel. Et vous êtes vous-même, Thomas Fromentin, responsable de cette commission des ressources humaines d'Intercommunalité de France. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ?
Vous savez, moi j'aime bien prendre des exemples très concrets, donc je vais vous prendre l'exemple de mon intercommunalité en Ariège. Entre 2022 et 2023, on a eu une hausse des frais, des charges de personnel, on appelle ça comme ça, de 2,3%. Donc vous imaginez, au regard de l'inflation, c'est assez normal.
À quoi est-elle due, cette hausse ?
Ben en fait, elle est liée au fait que évidemment il y a des augmentations courantes de salaires progressives.
Mais donc rien de nouveau sous le soleil, finalement.
Franchement, rien de nouveau. Par contre, entre 2023 et 2024, nous, c'est une augmentation prévisionnelle de plus 5,6%. Pourquoi ? Pas parce que nous créons des postes. Je voudrais tordre le cou de cette histoire. Hein. Pas parce que nous créons des postes. Parce que, et encore, on peut le comprendre, l'État décide la revalorisation du SMIC. Et on a une partie de nos agents qui sont indexés sur le SMIC. L'État décide de l'augmentation du point d'indice dont je parlais tout à l'heure.
Et qui concerne aussi la fonction hospitalière.
L'État décide la revalorisation indiciaire des bas de grille. L'État nous permet de verser ce qu'on a appelé la prime pouvoir d'achat et nous incite fortement à la verser. Tout ça, cumulé, évidemment conduit à une augmentation de nos charges de personnel. Et je trouve qu'il y a une contradiction, permettez-moi de le dire, entre le fait d'un côté d'avoir dit « nous augmentons, pour faire simple, les salaires des fonctionnaires parce qu'il y a de l'inflation et que c'est nécessaire et on vous invite à le faire ». Fort bien. Et 6 mois après, parce que c'est ça, hein, c'est 6 mois après, nous dire, oh là là, vos charges de personnel augmentent très fortement, il va falloir les réduire. Mais enfin, voyons, soyons cohérents. Il fallait les augmenter il y a 6 mois, il faudrait les réduire 6 mois après. Nous, vous savez, ce que nous demandons à Intercommunalité de France, c'est de la constance dans nos niveaux de ressources, de la constance dans les décisions qui sont prises par le gouvernement. C'est ce qui nous permet, je crois, de gérer au mieux les services publics.
Parce que de faire des prévisions à long terme aussi.
Absolument. Parce que je voudrais aussi redire ici, ça va sous le sens, mais parfois c'est bien de le redire, que derrière chaque agent de la fonction publique territoriale, il y a des services publics.
Bien sûr.
Quand les gens déposent leur enfant dans une crèche, quand les gens vont dans une médiathèque, quand les gens vont dans des piscines publiques, etc., etc. Derrière, ce sont des fonctionnaires, des agents. Si on réduit le nombre d'agents, on réduit l'accès aux services publics. Vous savez, c'est assez mathématique de ce point de vue.
Oui. Est-ce que vous pensez néanmoins, Thomas Fromentin, qu'il pourrait y avoir des solutions pour alléger le déficit public sans altérer nécessairement la santé financière des collectivités territoriales ?
De notre point de vue, en tous les cas, du point de vue des intercommunalités et au regard de, je parle à l'échelle nationale, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été réalisés par les intercommunalités et les collectivités. Bien sûr, il y en a certainement quelques-uns qui sont plus à l'aise que d'autres. Mais globalement, nous gérons au mieux, tout simplement parce que c'est de l'argent public. Ce n'est pas notre argent, ce n'est pas mon argent, c'est de l'argent public pour les services publics. Et je pense qu'il faut réinstaurer une logique de confiance de l'État vers les collectivités territoriales, notamment dans cet enjeu de bonne gestion de nos budgets.
Une logique de confiance, est-ce que ça passe aussi par peut-être une plus grande visibilité budgétaire ?
Absolument. Je vous rejoins pleinement dans ce que vous dites. Vous savez, quelque part, même quand les ressources sont faibles, on arrive à se débrouiller, excusez-moi de le dire comme ça, à partir du moment où elles sont prévisibles, où on le sait dans le temps, vous voyez, on sait que dans le temps, on va avoir tel niveau de ressources, et pas un coup on augmente, un coup non, il faut baisser, non, de la lisibilité. Vous savez, moi j'ai beaucoup de chefs d'entreprise autour de moi qui me disent la lisibilité réglementaire, de la lisibilité budgétaire. Nous, c'est la même chose en tant que collectivité que nous demandons. Simplement, lisibilité réglementaire, lisibilité budgétaire. Et après, en confiance, je pense que nous gérons le mieux possible.
Et est-ce que justement, pour obtenir cette lisibilité, il faudrait pas un peu plus de dialogue entre les instances gouvernementales et puis les intercommunalités et les collectivités ?
Oui, nous sommes toujours favorables au dialogue. Mmh. Ça nous semble évidemment une bonne manière de faire. On a parfois un peu l'impression, malheureusement, que ça ressemble un peu à un dialogue de sourds, les instances qui sont, je suis pas le seul à le dire, hein, les instances qui se réunissent là-dedans. Pour autant, il faut continuer de faire confiance au dialogue parce que, effectivement, c'est un enjeu national. Et nous avons des défis qui sont extrêmement importants. Vous savez, j'ai juste été regarder le défi de ce qu'on appelle la transition énergétique, mais juste sur quelques points. Pour rénover énergétiquement les bâtiments. En gros, pour éviter, vous savez, que quand on chauffe des bâtiments, le chauffage, il part par la fenêtre. Voilà, exactement. Et l'efficacité énergétique des éclairages publics. Pour qu'on y voie toujours, mais avec une plus faible consommation. Dans les années à venir, il faudra dépenser 3,8 milliards d'euros par an, si nous voulons réussir cette rénovation énergétique des bâtiments et cette efficacité énergétique des
éclairages. À l'échelle nationale, vous voulez dire?
À l'échelle nationale, absolument.
Et ça, ce sera à la charge des intercommunalités.
En tous les cas, des collectivités territoriales pour grande partie, puisque c'est nous qui gérons cela pour grande partie. On a donc, c'est pour ça que je redis que nous avons des enjeux communs, tant pour la planète que des enjeux de financement. Je rappelle que si nous investissons, notamment dans la rénovation énergétique des bâtiments, nous dépenserons moins de frais de chauffage.
Oui.
Ça, je pense que tous les auditeurs le comprennent, puisqu'à la maison, on fait la même chose. On change les fenêtres et on isole le toit pour moins dépenser de chauffage. Eh bien, dans nos bâtiments publics, c'est la même chose. Donc, il faut nous permettre de continuer d'investir. Donc, ça n'est pas le moment que le gouvernement arrête le moteur de l'investissement des collectivités territoriales. Sinon, ça va coûter encore plus cher, puisque nous n'aurons pas isolé nos bâtiments. Et donc, on continuera de dépenser plus, notamment en frais de chauffage.
Rassurez-nous, c'est quand même des dépenses que vous avez déjà commencé à engager pour cette transition énergétique.
Alors absolument, ouais. Nous sommes extrêmement investis sur ce sujet. Je pense qu'on est désormais très nombreux à avoir pris ce tournant. Vous savez, pour des enjeux environnementaux, parce qu'effectivement c'est l'avenir de la planète qui est en jeu, mais également, je le disais tout à l'heure, comme les gens, lorsqu'ils calculent ce qu'il leur reste à la fin du mois. Tout simplement parce que ça coûte moins cher d'avoir un bâtiment mieux isolé. C'est bon pour la planète, c'est bon pour le porte-monnaie. Alors évidemment, on le fait.
Je voudrais qu'on termine cet entretien, Thomas Franc-Mantin, en parlant de l'épargne. Le 29 février 2024, la Direction Générale des Finances Publiques a mis en exergue dans sa situation mensuelle comptable des collectivités locales un niveau d'épargne positif des collectivités locales. En quoi cette donnée pourrait-elle justifier la contribution des communes au déficit public? Parce qu'on pourrait se dire, bon, elles ont les moyens finalement, ces collectivités.
Oui, en fait, c'est une interprétation un petit peu à court terme, si vous voulez bien.
Une fausse bonne idée.
Voilà. À mon avis, c'est une fausse bonne idée. Déjà, il est très important de dire que la situation de l'épargne brute n'est pas bonne pour l'ensemble des intercommunalités. Hein. On a à peu près 60% des intercommunalités qui arrivent à stabiliser leur épargne brute, et puis un certain nombre qui sont en baisse de ce point de vue. Donc ça, déjà, c'est pour avoir des éléments objectifs. Et le deuxième point, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Une épargne brute qui baisse, c'est un investissement qui baisse. Ça veut donc dire moins, notamment, d'actions en matière de transition énergétique, mais aussi, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, moins de commandes publiques.
Ah oui, bien sûr.
Commandes publiques qui fait travailler les entreprises de notre pays. Je rappelle tout de même que, à l'échelle nationale, ce qu'on appelle le bloc communal, donc les communes et les intercommunalités, c'est 41% de l'investissement public en dehors des équipements et des recherches militaires. Vous vous rendez compte?
Oui,
si jamais des décisions de réduction, quelque part, de notre épargne brute devaient conduire à une réduction de l'investissement, c'est autant de travail en moins pour les entreprises qui vivent de la commande publique. Ça aussi, de ce point de vue, c'est assez, malheureusement, assez mathématique.
Donc, puissiez-vous être entendu, en tout cas. Merci beaucoup, Thomas Franc-Mantin, président de l'agglomération de Foix-Varilles en Ariège et vice-président en charge des ressources humaines de l'association Intercommunalité de France. Bonne journée.
Merci à vous.